Voilà. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention.
En fait, moi, je me disais que Dieu peut se révéler à un enfant, peut-être à partir de 8 ans, 9 ans, 12 ans. Mais je me dis là, 6 ans, 6 ans, voilà, Jésus qui se révèle à cet enfant, bon, ça m'a étonné. Déjà, je me dis donc vraiment, Dieu tient au salut. Et donc, même tout petit, voilà, donc c'est vraiment, voilà, Dieu veut sauver, quoi. Et aussi la phrase qu'il a dit, la phrase qu'il a dit que une chrétienne avait eu le courage de lui donner une Bible. Donc, que bon, il n'a pas trop développé là-dessus, mais j'ai vu qu'il a insisté sur le courage. Donc, je pense qu'il devait être compliqué, mais cette personne-là, quand même, a eu le courage de lui donner voilà, la Bible, quoi. Donc, moi, ça m'interpelle par rapport à l'évangélisation, par rapport à aller faire de notre disciple. Voilà, on doit, des fois, on est bloqué parce qu'on a peur, parce que les musulmans, ils vont peut-être, moi, voilà, c'est encore mon combat. Je me dis, ils vont me gifler, tout ça là. Donc voilà, c'est. Dieu veut sauver tout le monde, quoi. Dieu veut sauver tout le monde. Cette chrétienne a eu le courage de lui donner une Bible. Connaissant peut-être toutes les conséquences, il pouvait s'énerver ou. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai retenu.
Moi, je suis toujours surpris de la façon dont Dieu se manifeste chez les musulmans. C'est toujours de manière claire, soit où Dieu se présente lui-même devant eux, mais enfin, il y a une manifestation qui est claire où ils reconnaissent que c'est Dieu lui-même et pas le Dieu que pas Allah. Ils disent c'est bien le Dieu de l'Évangile. Et c'est clair et net à chaque fois quand on écoute différents témoignages. Enfin voilà, c'est clair. Et il y a un autre point aussi, oui, c'est par rapport. Moi, ça m'encourage aussi à aller aussi vers les musulmans à donner la Bible facilement, enfin plus facilement. Et il y a un troisième point. C'est par rapport au fait que c'est en venant dans l'église que Dieu s'est manifesté pour lui. Et je comprends combien ça peut être un combat pour un musulman de rentrer dans l'église, puisque bien souvent quand on s'adresse à des musulmans, ils disent, si je viens dans l'église, mais je vais me faire taper, je vais faire mettre dehors par ma famille. Et je me dis, mais... Les musulmans doivent avoir conscience que, à partir du moment où ils franchissent l'église, ils sont dans la présence de Dieu. Et en fait, ils ont déjà cette conscience-là. Enfin,
Oui, après, c'est vrai que sur ce point-là, ça peut être beaucoup du cas par cas. Tu as des gens qui veulent entrer dans l'église juste pour trouver des défauts et avoir des moyens de contredire et de justifier qu'on est dans l'erreur. Voilà, après, chacun va avec ses motivations. Donc, je voudrais revenir à l'intervention de la sœur Nancy. C'est vrai que la façon dont le Seigneur se révèle dépasse notre entendement. Et ça doit nous apprendre à ne pas réfléchir à la place des autres. Quelquefois, on ne dit pas telle chose parce qu'on imagine que la personne va comprendre ça de telle manière. On ne lui donne pas telle prédication, on pense que la prédication qu'on a écoutée, c'est ça qui va convenir à l'autre. Donc on essaie d'entrer dans des calculs, c'est comme si on sait à l'avance que la personne a besoin de telle chose. Mais on n'est pas dans le cœur des gens. Donc ce qui est important, c'est simplement d'obéir. Tu peux aujourd'hui donner un CD d'une personne qui parle sur l'amour, alors que son problème à lui, c'est un problème de péché par rapport, je ne sais pas, par rapport au vol peut-être. Et on ne fait pas trop le lien, oui, mais ce message-là par rapport. On entre dans des calculs et on veut faire les choses sur mesure. Donc je pense que ça peut devenir rapidement un obstacle et nous amener à ne pas atteindre finalement l'objectif que le Seigneur veut. Donc on ne doit pas calculer en fonction de la personne qu'on a en face de nous, de se dire que pour lui, automatiquement, c'est ça qu'il faut. Non, je pense qu'il faut simplement obéir à Dieu et faire comme le Seigneur nous demande de faire. Quand on lit les évangiles, on voit que quelquefois, les gens sont venus voir le Seigneur pour dire « Oui, mais avec quelle autorité toi tu fais ça ?» Et au lieu de leur répondre, il lui dit « Et avec quelle autorité Jean-Baptiste fait ça ?» Donc la réponse qu'il donne n'a rien à voir avec la réponse que ces gens-là attendent. Donc il passe du coq à l'âne directement. Mais l'objectif qu'il voulait atteindre finit toujours par atteindre. Donc si nous nous entrons dans les calculs en disant que puisque la personne veut ça, on lui donne ça, on risque finalement de contredire le projet de Dieu. Quand les apôtres à la porte du temple voient le paralytique, il fait l'aumône. Mais Pierre lui dit, regarde-moi, je n'ai ni or ni argent. Donc il est en train de dire à la personne, ce que tu me demandes, je ne peux pas te le donner. Mais je te donne autre chose à la place. Lève-toi et marche. Donc on n'est pas obligé de répondre aux personnes en fonction de ce qu'ils désirent apparemment. On doit répondre en fonction de ce que Dieu a mis dans notre cœur, même si ça peut paraître hors sujet, mais c'est là où le Seigneur va se glorifier. On voit aussi toujours pour revenir l'exemple de la révélation, comment le Seigneur s'est révélé à cet enfant de 5 ou 6 ans, dans un contexte de peur. Parce qu'il explique qu'il y avait comme des apparitions, il y avait en tout cas des phénomènes surnaturels qui se passaient dans la maison, qui faisaient qu'ils avaient peur. Mais il dit que quand son petit frère a vu Jésus, il dit là, il n'a pas eu peur. Donc on voit clairement la différence et on comprend que finalement l'homme est capable, tel que Dieu l'a créé, de sentir ce qui est bon et de sentir ce qui est mauvais. L'enfant n'avait pas eu un enseignement pour dire que quand Jésus-Christ se manifeste, c'est comme ça. Non, il était certain que cette présence-là était une présence qui était bonne, contrairement aux autres présences qui le faisaient peur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes peuvent faire semblant de ne pas comprendre l'intérêt de l'évangile. Mais c'est faux. En réalité, ils comprennent très bien l'intérêt ou tout ce que l'évangile peut produire de bon. Mais on fait celui qui ne comprend pas ou bien on fait tout simplement l'hypocrite. Il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui qui savent très bien. Quand j'étais au Maroc, je discutais avec un frère. Pas quand j'étais au Maroc. Je discutais avec un collègue de travail qui a vécu des années et des années au Maroc. Lui, il parle même arabe. Pourtant, il était parti au Maroc à cause du sport. Et donc, il faisait du sport à haut niveau là-bas. Et donc, il s'est vraiment acclimaté à la vie du Maroc. Et puis, on discutait un jour. Il me dit, mais tu penses qu'aujourd'hui, le roi, qu'est-ce qu'il préférerait? Que les gens demeurent tels qu'ils sont, méchants, avec en étant musulmans, ou bien en étant comme les chrétiens qui ne disent rien du tout? Mais le roi préfère avoir affaire à des gens qui ne disent rien du tout, qui sont calmes, qui sont dociles, qui ne cherchent pas la bagarre, qui ne cherchent pas des problèmes. Quel est le roi qui va refuser d'avoir une population de cette manière-là? Donc ça veut dire que les bons côtés de l'évangile, en ce qui concerne le bien-être de l'humanité, les gens le savent. Mais ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils font comme s'il y avait des mauvais côtés ou bien comme si l'évangile pourrait être dangereux pour l'humanité. Donc on voit dans l'exemple là, un enfant qui n'a jamais eu d'enseignement sur Jésus a su discerner que là je suis dans la paix, là c'est quelque chose de bon. Donc l'homme n'est pas un animal. Dieu l'a créé avec une certaine intelligence pour être capable de discerner ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui les gens qui combattent Jésus-Christ, c'est des gens vraiment qui ont un mauvais cœur. Parce que qu'est-ce que Jésus-Christ a fait de mal? Pour le voir comme un potentiel danger, loin de là. Les sacrificateurs qui se sont opposés à Jésus, ils se sont opposés uniquement pour leur propre intérêt. Parce qu'ils avaient bien compris que l'enseignement de Jésus-Christ allait nuire à tous leurs avantages. Donc c'est uniquement par jalousie et par méchanceté qu'ils ont fait tout pour renier ce qu'il était, mais au fond d'eux, ils savaient. Et il y a même un passage qui nous dit qu'ils avaient cru, mais ils ont préféré la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Donc ils ont fait un choix clair, connaissant que la vérité avait été dévoilée. Donc les hommes font semblant. Nous, on ne doit pas se limiter à ce que les hommes manifestent en apparence, parce que la réalité du cœur est tout autre. Donc à partir du moment où nous présentons les choses telles que le Seigneur nous demande de le faire, faisons confiance que le Saint-Esprit va continuer à faire son œuvre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que les manifestations apparentes ne reflètent pas la réalité qu'il y a dans le cœur. Et il va jusqu'à dire que, à partir de là, son petit frère avait arrêté de faire la prière. Il avait arrêté de faire la prière des musulmans. Voilà, sans vraiment connaître et réaliser ce qui se passait, mais certainement que la révélation qu'il avait eue du Seigneur à cette époque-là, sans vraiment tout comprendre en profondeur, mais elle l'avait quelque part conquis déjà d'une certaine manière. Donc le Seigneur se révèle, on ne doit pas nous douter du travail que le Seigneur fait. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où nous allons, le Seigneur lui aussi fait son œuvre. Comme il explique, il ne savait pas que le petit frère avait eu cette révélation-là. Mais il y a beaucoup de gens qui marchent ça et là. On ne sait pas, est-ce que Dieu ne les a pas parlé la nuit? Est-ce que Dieu ne s'est pas révélé à eux? Et ces gens-là ont juste besoin d'entendre quelque chose qui va confirmer ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Parce que souvent, les gens, quand ils vivent ces choses-là, ils n'en parlent pas. Pourquoi? Parce qu'autour, les gens ne manifestent pas de foi. S'ils n'ont pas la connaissance qu'il y a des chrétiens tout autour d'eux, ils préfèrent se taire parce qu'ils ont peur d'être considérés comme des fous. Ils ont peur qu'on dise, mais tu es fou, tu as des mauvaises idées, et on va commencer à lui donner des médicaments, on va l'emmener à l'hôpital psychiatrique. Donc les gens préfèrent ne pas en parler. Mais tous ces gens-là qui vivent ces expériences-là, mais ils attendent tout simplement d'entendre une parole qui va confirmer que ce qu'ils ont vu cette nuit-là, que la révélation qu'ils ont reçue était une révélation qui était vraie. C'est pourquoi je disais la fois dernière, dire juste à une personne que Jésus-Christ te bénisse, que Dieu te bénisse, c'est quelque chose qui peut avoir son poids dans la vie d'une personne. Donc ne retenons pas le Saint-Esprit lorsque nous avons la soif de nous exprimer, juste pour proclamer tout simplement ce que Jésus-Christ a fait dans notre vie, faisons les choses de façon naturelle, parce qu'on ne sait pas ce que le Seigneur a fait dans la vie de cette personne-là, qui n'attend tout simplement qu'un mot de l'Évangile pour quelque part entrer véritablement dans le plan de Dieu ou trouver un sens au moins à ce qu'il a vu, à ce qu'il a entendu, qu'il ne peut pas expliquer par lui-même. Donc c'est important vraiment d'être libre, de laisser le Saint-Esprit s'exprimer en nous. C'est de cette manière-là que nous travaillons en collaboration avec le Seigneur. Nous faisons notre part et le Seigneur fait aussi sa part par la puissance du Saint-Esprit. Intervention ? Oui. Luc Dina, après il y a le Jacques Offrel aussi d'ailleurs.
Moi, c'est plutôt. Moi, c'est plutôt une question en fait. Je voulais savoir, est-ce que certains musulmans, le fait qu'ils ont du mal à donner leur vie au Seigneur, c'est pas dû. Parce qu'ils savent peut-être hein, qu'ils doivent devoir se dépouiller peut-être de leur ancienne nature, leur caractère, le fait de ne pas se laisser marcher dessus. Après, je pense que c'est valable pour tout être humain.
Exactement. Donc, c'est ce que j'allais dire, ce n'est pas propre aux musulmans. Ce qui va vraiment représenter une difficulté pour les musulmans, c'est d'affronter la famille, c'est d'affronter le milieu musulman. Voilà, d'affirmer sa position, quelque part en reniant son origine. C'est ça qui est le plus difficile pour les musulmans. C'est vraiment de faire face à ses parents, de faire face à ses frères, de faire face à la communauté musulmane. C'est ça qui est le plus difficile. C'est ça qui est le plus difficile. En fait, que ce soit pour les musulmans comme pour les pays là où aussi il y a l'hindouisme, tous ces pays-là, dès l'instant où tu donnes ta vie au Seigneur, bon, c'est une façon de dire que bon, je risque de mourir demain, quoi. Voilà, des pays comme la Corée, quand tu te convertis, bon, ça veut dire qu'en même temps, tu acceptes la prison, tu acceptes peut-être d'être tué. Jacques Offrel ?
Oui, c'était pour rebondir sur ce qu'il a exprimé à un moment donné, lorsqu'il a défini le désert, quand il a expliqué que le désert, c'est un endroit où les chaleurs sont torrides, mais c'est aussi un endroit où le soleil brille le plus. Et j'ai trouvé ça vraiment une bonne exhortation par rapport aux situations qu'on peut vivre au quotidien. Quand on est dans les déserts, en fait, ça nous ramène à réaliser que Dieu va toujours se révéler à un moment donné. Et c'est là où, justement, lui, dans ce moment difficile où il avait tout perdu, que le Seigneur va se révéler à lui à travers la Bible qui se trouve dans ses affaires, alors qu'il n'avait plus rien, il lui restait plus que ça.
Amen. Donc ça montre finalement que c'est dans l'épreuve où nous voyons grandement l'intervention de Dieu. C'est vraiment là où, ensemble, abandonnés, incompris de tous, ben c'est peut-être à ce moment-là où nous sommes beaucoup plus malléables et que le Seigneur peut vraiment se révéler d'une certaine manière. L'homme, tant qu'il est dans la vie courante, tant qu'il est dans la distraction, tant qu'il est dans ses occupations, tant que tout va bien et que le bonheur de la vie lui fait oublier que le malheur existe, il oublie tout simplement la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle dans le livre d'Ecclésiaste, il est écrit « Mieux vaut se trouver dans une maison de deuil plutôt que dans une maison de festin. » Car c'est là la fin de tout homme et l'homme prend garde aux choses. Et effectivement, que lorsque tout va bien, lorsque les choses vont comme on le voudrait humainement parlant, la pensée de Dieu n'est pas aussi grande que lorsque ça va mal. Si le Seigneur intervient d'une certaine manière alors que tout va bien dans notre vie, l'intervention de Dieu, elle est comme minimisée parce qu'elle est étouffée au milieu de toutes les bénédictions apparentes. Mais lorsque tout ce qui est bénédiction, tout est enlevé, lorsqu'on se retrouve au plus bas, qu'on se retrouve faible, qu'on se retrouve abandonné, lorsque Dieu se manifeste, on est obligé de le voir. Là, on ne peut pas passer à côté. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, lorsqu'il permet certaines épreuves, il permet des temps difficiles, et bien c'est de cette manière-là aussi que nous allons voir le problème, l'intervention de Dieu d'une façon vraiment particulière. Plus la souffrance est grande, plus la consolation est grande. C'est ça. Donc on doit accepter en se disant que bon, lorsque ça ne va pas, c'est que nous sommes dans les bonnes dispositions, c'est-à-dire toutes les conditions sont réunies pour voir la gloire de Dieu.
C'était pour appuyer le verset de 2 Corinthiens 5:17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. C'est parti. Combien Dieu change le cœur de l'homme. En fait, il exprime qu'il a une haine contre les Juifs. Et quand il a rencontré Jésus, Dieu a changé cette haine en amour. Donc vraiment, Dieu change totalement les cœurs, quoi.
Amen. Et c'est vrai que La réalité que le peuple juif est le peuple de Dieu et que le diable a vraiment pour objectif que ce peuple-là soit haï de tous, moi je me rappelle quand on était très jeune, on avait peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans comme ça, on habitait dans les quartiers de banlieue à Paris et c'était devenu presque une insulte lorsque tu voulais insulter quelqu'un, tu disais t'es un juif. Parce que même à cet âge-là, on avait la réputation que les Juifs étaient soit des traîtres, soit étaient des radins. Donc quand on voulait exprimer quelqu'un, c'est un radin, on ne disait pas radin, on disait c'est un Juif. Donc, et on grandissait avec ça. Depuis l'âge de 8 ans, 9 ans donc, dans les quartiers, c'est comme ça qu'on exprimait. Voilà. Alors que à cette époque-là, tu me demandais c'est quoi un Juif, j'étais incapable de le dire. Mais c'était devenu quelque chose de courant. Et tu grandis avec ça en pensant que quelque part ça devient une réalité. Et tu te retrouves à détester des gens qui ne t'ont jamais rien fait. Comme c'était son cas à lui, mais il détestait les Juifs parce que c'est ce qu'on lui avait inculqué. Voilà, c'est ce qu'on lui avait inculqué. Or, si on veut parler de façon historique, il n'y a pas plusieurs peuples où nous avons vraiment la connaissance des racines, que ce soit le peuple juif et le peuple arabe. C'est vraiment les deux peuples pour lesquels on sait clairement qu'ils sont frères. La Bible ne parle pas vraiment de l'origine du Zimbabwe ou bien de l'Afrique du Sud, mais en ce qui concerne l'Arabe et les Juifs, c'est vraiment clair qu'ils sont frères. Et ce sont les peuples qui se font le plus la guerre dans ce monde-là. Donc on voit vraiment comment le diable a réussi à travailler pour amener une haine dans le cœur des Arabes vis-à-vis des Juifs, quoi. Et c'est une haine qui se répand même auprès de ceux qui ne sont même pas concernés par ce conflit-là.
Dieu lui avait dit aussi d'obéir le jour même où il s'était révélé à lui. Et il ne l'a pas fait, et du coup, il a traversé les épreuves. Mais ça nous montre aussi combien Dieu est bon, parce que malgré qu'il n'ait pas obéi ce jour-là, qui aurait pu lui éviter toutes ces épreuves, Dieu a quand même tendu sa main à nouveau quand il était dans le désert. Et Dieu lui a fait grâce. Et autre chose aussi, c'est qu'on voit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. On pourrait se dire, mais mince, il est venu dans l'église, les gens qui devaient être là auraient pu vouloir voir sa conversion directement, mais sa conversion s'est faite peut-être après. Et Je ne sais pas, comme tu disais tout à l'heure, si on a une parole à cœur ou si cette femme qui a eu à cœur de lui donner la Bible n'a pas agi directement au moment où elle a été donnée, mais peu de temps après, et que bah, Dieu nous aide à obéir à son Saint-Esprit quand il nous demande de faire des choses.
Amen. Et on voit par là vraiment l'autorité de la Bible, quoi. On voit vraiment l'autorité de la Bible. C'est vrai que le Seigneur a commencé à le priver de façon matérielle. Il s'est retrouvé dans son logement avec un matelas par terre, juste un réfrigérateur et un carton de quelques affaires. Donc il avait tout perdu, et le travail et la voiture, il avait perdu beaucoup de choses. Donc le Seigneur a commencé déjà à le mettre dans des dispositions où il n'avait plus le choix de faire beaucoup de choses. Le Seigneur l'a conduit à lire la Bible, et à partir de là, il y a eu un travail qui s'est fait, c'est sûr et certain. Donc ça nous montre vraiment qu'il ne s'est pas retrouvé forcément dans l'église parce qu'on l'a évangélisé ou parce qu'on l'a forcé, loin de là. Donc certainement que le Seigneur avait déjà commencé à faire un travail. J'ai déjà raconté la façon dont je me suis converti. Je passais, une certaine époque difficile, et puis ma mère qui était venue en France à cette époque-là se retrouve chez une amie en train de discuter, et comme toute bonne maman, elle se lamentait sur son fils, et un monsieur qui était là, qui a écouté la discussion qu'elles avaient, et puis il lui donne une Bible. Il dit, tiens, tu donneras ça à ton fils. Et quand elle rentre, elle me dit, tiens, j'ai un monsieur qui était là-bas, il m'a dit de te donner ça, et de lire tel passage qu'il avait noté. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé. Bon, par rapport au contexte dans lequel je vivais, je ne voyais pas l'intérêt de ce verset-là, je ne le voyais pas. Donc je l'ai lu, ne voyant pas d'intérêt, je l'ai refermé, j'ai rangé la Bible. Et plusieurs mois plus tard, un matin, je me lève avec la conviction que je dois me faire baptiser. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette conviction-là, je dois me faire baptiser. Mais comme enfant, tout ce qu'on nous avait montré, c'était le catéchisme. Donc logiquement, je me suis levé le matin et je marche pour trouver une église, un bâtiment catholique. Une fois, deux fois, j'y vais. Les portes sont ouvertes, mais je ne trouve personne dedans. Trois fois, j'y vais, il n'y a encore personne. Et au moment où je repars, je croise une jeune fille et je connaissais son père, parce que quand on était enfant, c'est lui qui était notre coiffeur. Et donc je le vois, elle me dit, ah bonjour grand frère, qu'est-ce que tu fais? Je dis, non mais toi tu vas où? Ah je vais à l'église. Ah bon? Ah bon, je t'accompagne. Et on est parti comme ça, c'était une église des ADD. Et c'est par la suite que j'ai pris mon baptême. Mais c'est pour dire tout simplement que ce n'est pas quelqu'un qui m'avait évangélisé. Juste en lisant cette parole-là, quelques mois plus tard, je me suis levé avec la conviction que ma vie allait changer si je me faisais baptiser. Donc le Seigneur avait commencé à faire son œuvre uniquement à partir de ce verset-là que j'avais lu. Donc c'est une réalité qu'on doit vraiment dispenser la parole de Dieu. On ne sait pas depuis combien de temps lui avait reçu la Bible. Peut-être des mois en avant, peut-être même des années en avant, on ne sait pas. Mais à un moment donné, il a eu le besoin de lire cette Bible-là. Donc on peut aujourd'hui donner un Nouveau Testament, donner quelque chose. La personne peut négliger, peut même la mettre dans un coin, c'est grave. Mais viendra un temps où le Saint-Esprit va conduire la personne à lire. Donc on ne doit pas vraiment se limiter et vraiment faire confiance que la parole de Dieu est puissante. Ça, c'est une réalité. Un autre événement par rapport à sa vie, le divorce de ses parents. Il dit que c'est lorsque les parents ont divorcé qu'il a commencé à être vraiment violent. Il avait déjà une certaine haine au-dedans de lui à cause des arts martiaux, à cause peut-être de l'éducation et puis peut-être du contexte lié à l'islam. Mais il dit que lorsque les parents se sont séparés, c'est là où la violence n'a fait qu'augmenter en lui, la haine n'a fait qu'augmenter. Donc tout ça, ça nous emmène à comprendre que le divorce est quelque chose qui a des conséquences très graves. Qui a des conséquences très graves dans la vie des enfants. Et des conséquences qui peuvent être irréversibles. Parce que certains ont été très loin dans les bêtises et ça a été un aller simple vers la mort, tout simplement, un aller simple vers la délinquance et ils n'ont pas pu y revenir. Donc on voit clairement que l'œuvre du diable, c'est vraiment de détruire tout ce qui constitue, je dirais, le fondement d'une société, à savoir la famille. Aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, je le redis, on peut crier contre les politiques, on peut crier contre les policiers, parce que telle intervention, tel ceci, tel cela. Mais la réalité, c'est que les parents ont une très grande responsabilité. Quel enfant nous fournissons à la société? Quel individu nous fournissons à la société? Donc on essaie de se dédouaner les parents en disant que les lois, c'est la politique, les policiers sont des provocateurs, les CRS ont provoqué. Mais des enfants, 13 ans, 14 ans, 22 heures, 23 heures, ils sont dehors, minuit, encore devant la télé. C'est-à-dire les enfants sont livrés à eux-mêmes et après on va dire que la politique ne va pas. Ce n'est pas vrai. Le vrai problème, ça commence d'abord à la maison. Donc c'est important que nous puissions prendre nos responsabilités en tant qu'aînés, en tant que parents, pour encadrer les enfants, pour ne pas que la société, qui souffre déjà, souffre davantage encore en leur fournissant des individus mais qui sont tout simplement insociables. Et malheureusement, les enfants ne sont pas responsables de ça. Après, ils en payent aussi des conséquences à leur niveau lorsqu'ils arrivent à la majorité, mais quelque part, ils sont le fruit de ce que les parents ont fait d'eux ou de ce que ceux qui avaient l'autorité parentale ont fait d'eux. Donc c'est important de prendre nos responsabilités au sérieux, de considérer que c'est en tant que parents que nous sommes censés fournir à la société des individus qui vont rendre le pays habitable et non pas des individus qui vont contribuer à détruire, contribuer à, comment dire, à construire l'insécurité, la peur et l'instabilité dans le pays. Donc on peut crier sur les présidents comme on veut, mais la réalité c'est que ça commence d'abord à la maison. Et lui n'a fait que grandir en violence à partir du moment où ses parents ont divorcé. Il dit aussi que lorsqu'il allait visiter sa mère, après que sa mère et je crois l'un de ses frères s'est converti, il dit qu'il ne comprenait pas la paix dans laquelle eux ils étaient. Il dit « moi j'avais la haine, j'avais une haine au-dedans de moi et je n'arrivais pas à comprendre que ces gens-là, en fait ils avaient quelque chose que je n'avais pas. » Et c'est ce qui fait la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Dans la façon d'interpréter les événements de la vie, quand il y a la crise, on est censé être dans la paix. Quand il y a l'insécurité, on est censé être dans la confiance parce que c'est Dieu qui nous garde. Mais si les païens nous trouvent apeurés comme ils le sont, nous trouvent dans le désarroi comme eux ils le sont, finalement, quel est notre avantage d'être enfant de Dieu? Quel est le privilège d'être enfant de Dieu si finalement nous manifestons les mêmes caractéristiques de ceux qui n'ont pas de Seigneur? Lui, il venait chez lui, chez sa mère, rempli de haine, mais il voyait que leur situation à eux était tout autre. Eux, ils avaient la paix. Le Seigneur dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. La paix est quelque chose qui se communique. C'est pourquoi on dit qu'une parole douce calme même celui qui est dans la fureur. Donc lorsque tu réponds avec douceur, tu peux répondre cette douceur à celui qui est énervé. Donc c'est important de vivre véritablement l'évangile, de chercher vraiment à être à l'image du Seigneur afin, comme il est écrit, de répandre le parfum, l'odeur de Christ. Et ça, c'est possible. C'est à nous d'avoir l'attitude qu'il faut afin que par notre paix, que par notre joie, on puisse apaiser ceux qui n'ont pas la paix, ceux qui sont dans la peur et dans la crainte. Un autre point, on a vu comment le Seigneur finalement l'a emmené jusqu'au plus bas. Et là, je reviens à ce que le frère Samuel expliquait, qu'on voit comment le Seigneur l'a amené au plus bas. Le frère Samuel avait soulevé le point que Dieu lui avait demandé d'obéir, mais qu'il n'avait pas obéi tout de suite. Et refusant d'obéir, quelque part, se soumettre à cette voie-là ou à l'élan de cœur que Dieu lui avait donné, le Seigneur, il est comme entré dans un bras de fer, en fait. Et quand tu entres dans le bras de fer avec Dieu, par amour pour nous, il va nous amener au plus bas, au plus bas, au plus bas, jusqu'à nous faire céder. C'est la raison pour laquelle, on en avait parlé la fois dernière, la sœur Nancy avait dit, mais est-ce que le Seigneur, quand il permet la souffrance, il est obligé de la permettre autant? Dieu, lui, il regarde au cœur. Et il sait que s'il s'arrête à cette épreuve-là avec toi, tu risques de retomber, tu risques de résister. Donc, il l'emmène encore au plus bas parce que c'est nécessaire. Il était déjà malade. Il est parti chez sa mère pour passer un temps de récupération. Là, le Seigneur va se révéler à lui et dans un contexte particulier parce qu'il le dit clairement. Il dit, j'ai entendu la voix. C'était le Dieu de l'Évangile. Pourquoi ? Parce que lui, il a fait le lien entre le lieu et la voix qu'il a entendue. Donc c'est de cette manière-là que Dieu s'est révélé à lui, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il ne dise pas c'est le Dieu de l'islam. Non, il l'a entendu dans une maison qui était consacrée à Dieu. Donc forcément, puisque cette maison était consacrée au Dieu de la Bible, il a compris que ce n'était que le Dieu de la Bible qui lui avait parlé. Mais malgré ça, il a résisté. Et quand il est reparti, les choses n'ont fait que s'enchaîner jusqu'au plus bas. Jusqu'au plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans une maison juste avec un frigo et un matelas par terre et un carton dans lequel il y avait la Bible. Donc, ça doit nous apprendre aussi à continuer à louer le Seigneur. Quelquefois, lorsque nous voyons quelqu'un souffrir dans une épreuve, nous, on a pitié. Et on a pitié, pas dans le sens de la compassion, on a pitié dans le sens où on a envie de dire, Seigneur, c'est bon, libère-le maintenant. Il a assez souffert. Donc, quelque part, c'est comme si on était plus compatissant que Dieu, quoi. C'est comme si nous, on avait jugé que bon, là, c'est bon, il a compris. Donc, on veut quelque part convaincre Dieu d'arrêter. Non, bénissons le Seigneur, prions que le Seigneur donne la force à notre bien-aimé de ne pas murmurer, de supporter, et qu'il nous donne aussi la capacité d'accepter ses jugements, d'accepter ce qu'il permet, en ayant le souvenir que Dieu est bon et qu'il est aussi son papa. Donc, il sait ce qu'il fait. Voilà, donc ne bloquons pas le plan du Seigneur en voulant nous immiscer entre l'épreuve que Dieu permet dans la vie de quelqu'un et Dieu lui-même. Prions pour soutenir la personne, que le Seigneur l'aide à tenir sans murmurer, sans s'éloigner du Seigneur et qu'il nous aide aussi à ne pas murmurer et à commencer à regarder le Seigneur comme quelqu'un de méchant, quoi. Donc le Seigneur sait ce qu'il fait. Et à la fin, aussi important, à mon sens, on lui dit, mais là aujourd'hui vous servez le Seigneur, vous êtes quoi? Vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur? Il a dit, le titre importe peu. Quand on est conscient de ce que le Seigneur a fait pour nous, mais c'est normal qu'on le serve. Après le titre, voilà, c'est pas ça qui est le plus important. Et c'est bon d'être animé d'une telle pensée, parce que ça évite ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde de l'Église, où tout le monde veut être à la première place. Tout le monde pense que servir Dieu, c'est être prophète, c'est être apôtre. On se donne des titres alors qu'on n'est pas appelé de Dieu. Ce qui est important, c'est le travail. Que les autres déterminent ton travail. Discerne le travail que tu fais. Discerne l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ça ne doit pas être pour nous une condition de se dire, j'attends d'être diacre, j'attends d'être ancien, j'attends d'être pasteur pour commencer vraiment à m'investir. Ça, c'est qu'on n'a pas compris vraiment l'évangile du Seigneur. C'est qu'on n'a pas compris ça. Il y a des gens qui ont été fidèles au Seigneur, qui ont servi des gens comme Étienne, martyr, sans aucun titre, sans vouloir être élevé d'une certaine manière. Donc c'est important, c'est le travail qui va justifier ce que nous sommes et ce que Dieu a mis en nous. On ne doit pas attendre d'être, entre guillemets, élevé par les hommes, reconnu officiellement par des hommes, pour dire « je peux maintenant commencer à travailler et m'engager pour l'œuvre du Seigneur ». Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie et qu'est-ce que toi tu peux faire en retour, si ce n'est te consacrer et le servir tout simplement. Maintenant, dans le contexte rêvé dans lequel nous sommes, dans le contexte d'une église locale, les choses se feront d'elles-mêmes ou les choses s'imposeront parce que Dieu va les imposer. Mais nous, on ne doit pas chercher après ça. On doit tout simplement chercher à nous rendre disponibles. Comme l'apôtre Paul avait dit au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse ?» Voilà, « Que veux-tu que je fasse ?» Une manière de dire, « Je suis à ta disposition. » Et le Seigneur lui a dit, « Entre dans la ville et d'autres personnes te diront ce que tu as à faire. » Et qu'on accepte d'entrer dans la ville et d'accepter que d'autres nous disent ce que nous avons à faire. Mais au moins, nous nous sommes mis à la disposition. C'est ce que le Seigneur dit encore lorsqu'il parle dans la parabole des talents à celui qui avait enterré le talent sous la terre. Il dit, « Il fallait au moins le confier au banquier. » Au moins, j'aurais tiré des intérêts. Donc, si toi, tu ne sais pas quoi faire avec ce que je t'ai donné, il y a d'autres qui sauront comment t'orienter pour que tu puisses utiliser ça et le fructifier pour produire plus pour le royaume de Dieu. Donc, c'est important de travailler si nous voulons aussi manifester notre reconnaissance, ben, c'est aussi en nous mettant à la disposition du Seigneur. Amen.